On va continuer l'étude sur le Saint-Esprit. C'est l'avant-dernière leçon, d'après moi, pour sur ce sujet-là. Moi, ce que je crois, c'est que Dieu veut nous parler tout le long de notre vie sur le Saint-Esprit, pour pas qu'on oublie que le Saint-Esprit il est là en nous, puis il y a le Saint, qui est important que chaque chrétien soit rempli du Saint-Esprit. C'est quelque chose que moi, je trouve qu'on n'entend pas assez souvent parler. Nous devons être continuellement à la recherche d'être remplis du Saint-Esprit. C'est ce qu'on va voir un peu à soir, parce que c'est particulier la question du sujet. Comment peut-on être renouvelé dans la présence du Saint-Esprit? Ça arrive que dans la vie des croyants, parce qu'on marche souvent avec une oreille dure, qu'on n'entend plus le Seigneur nous parler, qu'on n'a plus le goût de l'écouter, puis qu'on marche charnellement, puis qu'on marche selon notre chair, puis qu'on fait des péchés, puis à un moment donné, on se sent comme dans un désert. C'est comme si, je dis pas que Dieu s'est totalement retiré de nous, mais une chose est sûre, c'est que nous sommes pas remplis de la présence du Saint-Esprit. Puis quand on passe ces déserts-là, il est important de réaliser qu'on est dans un désert, spirituellement parlant, puis qu'il est important qu'on s'arrête, peu importe ce qu'on est en train de faire, parce que tu peux être dans un désert spirituellement, puis être en train de servir Dieu. Faire des bonnes actions, parce que tu trouves que c'est important de faire des bonnes actions, mais ton cœur est plus là avec Dieu, t'es plus dans cette relation-là avec Dieu qui te fait du bien, là. Tu te sens rempli, revêtu, tu te sens équipé, tu sens la présence et la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de faire le point dans notre vie, puis d'essayer de réaliser si on est toujours rempli du Saint-Esprit. Le désir de Dieu, c'est qu'on le soit tout le temps rempli de Dieu. Dieu veut nous remplir, nous habiter, prendre toute la place, puis il veut nous équiper, nous fortifier, puis il veut faire des choses extraordinaires à travers de nos vies. Mais c'est nous qui sommes pas là, pas que Dieu voulait pas, c'est nous qui est pas là, qui décroche. Puis, ça peut arriver qu'on entende un appel de Dieu, Dieu nous appelle à aller à lui, puis on décroche, puis on n'est plus là, puis on ne le suit plus pendant des périodes de temps dans notre vie. Dans Romains 10, 21, ça nous dit, en parlant du peuple d'Israël, qui est un peuple choisi par Dieu, le peuple d'Israël est un peuple choisi par Dieu pour représenter Dieu sur la terre. C'était pour ça qu'il avait été choisi initialement à travers Abraham. Il dit, je vais faire un peuple qui va faire répandre ma gloire sur la terre, puis que son nom était pour résider dans le peuple d'Israël, le nom de Dieu, puis que les miracles de Dieu pouvaient se faire. Mais Dieu n'était pas content de la manière que le peuple d'Israël fonctionnait. Puis là, il a fait écrire ce passage-là dans la Bible, il dit, mais en parlant d'Israël, il dit, ça c'est Dieu qui a dit ça, à longueur de journée, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Tous les jours, Dieu voulait que le peuple d'Israël revienne à l'Éternel et qu'il soit béni par Dieu. Puis à longueur de journée, Dieu les appelait, puis à longueur de journée, le peuple était désobéissant, puis il était rebelle. Il ne voulait pas marcher. Il tournait en rond dans le désert, où quand il était dans terre promise, il faisait ce qu'il ne devait pas faire, puis il ne faisait pas ce qu'il devait faire. Fait que... Puis il y a même des bouts que le peuple d'Israël il est en train de servir des Baals, puis Astarté, puis d'autres faux dieux. C'était grave, là. Il se détournait carrément de l'Éternel. Pourtant, c'était un peuple qui était choisi puis béni de l'Éternel. Mais il commençait à marcher un bout. Là, il se repentait, il cassait toutes les statues puis les idoles qui se faisaient, le morceau de bois puis les statues. Puis il cassait tout, il revenait à l'Éternel, puis au bout d'un certain temps, il relâchait à l'Éternel, puis il retournait à se mettre à genoux devant le statue. Puis là, Dieu les appelait, puis Dieu aurait aimé vivre une relation d'amour avec ses brebis, le peuple d'Israël. Puis ça, à tout, il dit, à longueur de journée, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Mais pour nous montrer que Dieu veut cette relation-là, Dieu ne se lassait point de dire à Israël, « Revenez à moi », il envoyait des prophètes pour leur dire de revenir. Puis il dit, à longueur de journée, il leur tendait les bras. Là. Dieu veut avoir une relation intime avec chacune de ses brebis, en partant avec le peuple d'Israël, mais aussi avec nous. Il y a trois paraboles en ligne que Jésus-Christ a parlé dans Luc au chapitre 15, pour nous démontrer comment ce que Dieu veut être en relation avec les personnes, puis il est prêt à tout faire pour y arriver. Dans Luc 15 au verset 4, ça nous dit, dans une parabole, « Quel homme d'entre vous, si le 100 brebis, puis qui en perd une, ne laisse les 99 dans... » les 90 autres dans le désert, pour aller après celle qui s'est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et lorsqu'elle l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel qu'un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dans ce passage-là, Jésus, il voulait le démontrer comment est-ce que le cœur de notre Père, Dieu le Père, son cœur, c'est de vouloir garder le contact avec ses brebis. Mais là, il dit, il est prêt à laisser 99 brebis pour aller chercher la seule qui est perdue. Puis quand il l'a retrouvée, ça y cause de la joie de retrouver sa brebis. Dieu trouve ça important. Même une brebis, c'est important. Il aime chaque être humain sur la terre. Puis il voudrait développer une relation d'amour avec chacune de ses brebis. Puis quand il y en a une qui revient à lui parce qu'elle s'est repentie, ça y cause de la joie. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance.
Parce que c'est son élu.
Parce que c'est son élu. Il aime ses brebis puis il veut que les gens retournent à lui puis qu'ils se repentent. Tout de suite après ça, il a fait une autre parabole qui a encore le même sens. Il dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, des drachmes, c'est des pièces de monnaie. Si elle a 10 pièces de monnaie, puis qu'elle en perd une, elle n'allume une lampe, elle balaye la maison, puis cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, ses voisines, et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma pièce de monnaie que j'avais perdue. Il dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Là, on voit encore un autre exemple que Jésus voulait mettre l'emphase, comment est-ce que Dieu est content quand une seule personne se repent et parvient à Dieu. Dieu il est content. Dans ce passage-là, ça nous dit au verset 10, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu. C'est qui est devant les anges de Dieu? C'est Dieu. C'est Dieu. Il y a de la joie devant les anges de Dieu. Fait que Dieu, il est heureux puis il est dans la joie quand un seul se repent, un seul est retrouvé. Parce que là, on parle d'une pièce de monnaie perdue. On parle d'une de ses brebis au Seigneur qui s'est égarée puis qu'elle revient à Dieu. Puis quand une de ses brebis revient, mais ça cause la joie dans le cœur de Dieu. Tant qu'on a vu la semaine passée qu'il y avait une voie de non-retour, que ça, il y a un moment qu'il y a des choses que des personnes peuvent faire qui vont les empêcher de revenir à Dieu. Ils pourront pas se repentir s'ils ont dépassé le chemin de non-retour.
Comme renier Dieu. Ou de cracher.
Blasphémer, renier Dieu, tout ça. Là, on a vu ça la semaine passée. Ça. Mais cette semaine... pour tous les autres qui ont abandonné, toutes les brebis qui ont abandonné, mais qui n'ont pas encore traversé la voie de non-retour, toutes les brebis peuvent revenir à Dieu. Tant qu'une personne est vivante, elle peut revenir à Dieu et pouvoir recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Dieu, il est heureux quand il y en a un qui se convertit, qui revient à lui. Tout de suite après ces deux paraboles-là, Jésus en raconte une troisième parabole encore, c'est le même sujet. C'est belle celle-là, la troisième, puis je pense que la plupart la connaissent, c'est la parabole de l'enfant prodigue. Un enfant prodigue, c'est un enfant qui frippe tout son argent dans la folie. Là. C'est ça, cette histoire-là. Il a pris son héritage, puis est allé le dépenser. Il est égaré. On va relire ce bout de parabole-là, parce que ça démontre encore le cœur de Dieu, comment est-ce que Dieu il aimerait que son enfant revienne à lui. Comment est-ce que son enfant qui revient à lui, lui cause de la joie. Ça nous dit dans Luc 15, le verset 11, qu'il y avait, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune, il dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. » Puis le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, il partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, puis il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays qui avait ses champs pour garder les pourceaux, garder des cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, puis moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Puis là, il se leva, il alla vers son père, et comme il était encore loin de son père, le vit. Quand il était encore loin, son père le vit, puis fut ému de compassion, puis il courut se jeter à son cou, puis il le baisa. Il lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne de t'appeler ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. » C'est beau. Là, on voit dans cette histoire-là qu'il y a un homme avait deux enfants, il y en a un qui a pris sa part de son héritage, il a quitté son père, puis il s'est en allé dans un pays éloigné, dans un pays où il a tout dépensé son argent dans la débauche. Ça veut dire que là, il vivait dans le péché. Et après avoir tout dépensé son argent, il a commencé à goûter la misère. La misère de ne pas être auprès de son père, de ne pas être rassasié par les choses de son père. Il était privé des bénédictions de son père. Il vivait en train d'être esclave, pas nécessairement esclave, mais un travailleur dans une ferme, puis il faisait manger les cochons, puis il n'avait même pas d'argent pour pouvoir se nourrir. Il aurait aimé manger ce qu'on donnait à manger aux cochons, puis il n'avait plus rien. Il n'avait pas d'argent pour manger, il avait tout dépensé. Mais, il y a une chose que ce personnage-là a faite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Il a commencé à regarder sa vie, comment est-ce qu'il était rendu dans la misère, comment est-ce qu'il était bien auprès de son père. N'importe quelle personne qui marche séparée d'avec Dieu ne peut pas se sentir aussi bien que lorsqu'elle était avec Dieu. Il y a plein de choses qui vont nous manquer. La paix de Dieu, la joie produite par le Saint-Esprit, le fait d'être rempli du Saint-Esprit, puis que goûter comme on prie ensemble, puis on a des exaucements de prière, on prie ensemble, on loue le Seigneur ensemble, puis on est béni en sa présence, on est restauré. Mais tout ça, on l'a pu quand on est privé de la communion avec Dieu, à cause probablement qu'on est dans le péché. À cause qu'on est loin du Seigneur, qu'on ne se tient pas proche de lui, on commence à être privé de tout ce que Dieu avait pour nous. Puis il est important de voir comment est-ce que ce personnage-là, il s'est humilié. Il était prêt à dire à son père, « Je suis même pas digne que tu m'appelles que je sois ton fils. Traite-moi comme un de tes travailleurs, un de tes ouvriers. » Il dit, je vais aller voir mon père, puis je vais lui dire, j'ai péché contre le ciel, puis contre toi. J'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre toi. Puis là, il est retourné voir son père. Moi, ce que je trouve le plus beau dans ce passage-là, c'est de voir comment est-ce que son père, il était excité, il était heureux, il était dans la joie quand il a vu son fils revenir à lui. Il est parti en courant rejoindre son fils, puis il l'a serré dans ses bras, puis il l'a embrassé. Là, son fils, il a dit, je suis pas digne de t'appeler ton père, à ton fils, puis traite-moi comme un de tes mercenaires, puis j'ai péché contre le ciel et contre toi. Son père, il a vu la repentance de son fils, mais il est encore plus heureux de voir son fils revenir à lui. Puis là, il a dit, allez chercher la bague, allez chercher des souliers. La bague, c'était un anneau, ça. C'était une bague, c'était un signe d'alliance que Dieu faisait avec son fils, que son père a fait avec son fils. Puis revêtez-le d'une robe blanche. Ça représente comment Dieu est prêt à nous pardonner, à nous revêtir d'une robe blanche quand on revient à lui. Puis, tuez le veau gras, puis faites la fête. Mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, puis là, il est sauvé. Dans cette parabole-là, ça nous montre clairement comment est-ce que Dieu est content de revoir une de ses brebis, un de ses fils qui s'est égaré en vivant dans le péché, puis qui revient à lui. Comment est-ce que Dieu il est content de reprendre la personne dans ses bras, puis de l'embrasser, puis de refaire alliance avec, puis redonner un vêtement blanc, puis de faire la fête, de vouloir faire la fête. Ça réjouit le cœur de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. C'est extraordinaire. Dans ces passages-là, on est en train de voir que Dieu veut renouveler tous ceux qui viennent à lui. Dieu veut que chaque personne qui l'a abandonné puisse revenir à lui, pouvoir recevoir tout ce renouvellement-là qu'on voit que le Père a donné à son fils. L'alliance, la robe blanche, puis de faire la fête avec Dieu. Oui, parce que Dieu a pitié de chacun de nous, il est miséricordieux. Parce que le mot miséricordieux, à la base, ça, par rapport à pitié, puis comment est-ce qu'il nous aime aussi. C'est ce qu'on voit là-dedans. Puis on va le voir dans un passage qu'on voit ensuite.
C'est ça que nous, on peut pas juger les autres.
Non.
Même le Seigneur, il a la miséricorde.
C'est ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé dans la suite de l'histoire? Là, je ne l'ai pas écrit, mais son frère était jaloux. Son frère n'était pas content que le père tue le veau gras pour son frère qui était pécheur et qui est revenu. Mais quand même, on voit que le père, lui, était content de le faire, puis tout ce que j'ai est à ta disposition, il a dit ça à son fils, tandis que lui, il était mort, puis il revenait à la vie, c'était le temps de fêter. Là, le début de ce message-là, c'était pour nous faire comprendre comment est-ce que Dieu veut nous restaurer, puis veut nous bénir, puis veut nous renouveler dans sa présence. Puis il veut nous bénir, puis il veut refaire alliance avec ceux qui sont égarés, puis avec ceux qui ont vécu dans le péché, il veut leur donner une robe blanche. Il veut leur pardonner, puis il veut même les inviter à la fête des noces de l'agneau. Il veut faire la fête avec nous autres. Mais comment faire? Parce qu'on voit que ce personnage-là, il avait de l'humilité, il a reconnu son état, il a confessé son état, puis il s'est humilié pour être renouvelé. Sincèrement. Mais comment faire pour vraiment être renouvelé dans la présence du Saint-Esprit? Parce que le but du message, c'est comment peut-on être renouvelé dans la présence du Saint-Esprit? Là, on vient de voir que Dieu veut nous renouveler. Mais en regardant des passages de la parole de Dieu, on voit qu'il est important de réaliser premièrement, est-ce que je suis en pleine communion avec Dieu? Ça, c'est la première question. Il faut réaliser notre état. Si on se dit, oh ben moi j'ai un état satisfaisant, moi j'en ai assez comme que j'ai là, puis j'en veux pas plus. Si on pense comme ça, on n'aura pas plus non plus. Si on n'a pas plus soif de Dieu que cela, on goûtera pas plus de Dieu. Si on veut vraiment goûter tout ce que Dieu a nous donné, il faut réaliser notre état, qu'on ne l'a pas, puis qu'on en veut plus. 2 Corinthiens 13, 5, ça nous dit, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » C'est comme un test, une épreuve. On doit vérifier si vraiment je suis dans une vie de foi ou une vie de communion avec le Saint-Esprit, puis si vraiment je suis autant béni comme j'ai déjà été bien béni. Ah, est-ce que je suis encore sous la même bénédiction? L'enfant prodige, lui, là, il a réalisé qu'il n'était plus sous la même bénédiction qu'il avait. Il se souvenait de ce qu'il avait avant. Il se souvient de ce que tout le monde commence qu'il avait tout de quoi manger dans cette famille-là. Même les serviteurs. Il a réalisé qu'il était dans la misère, puis qu'il l'avait plus, puis il l'a confessé, puis il l'a avoué. Puis c'est les premiers pas pour être renouvelé. Il faut se reconnaître. Il faut reconnaître notre état, puis reconnaître notre position, puis il faut réaliser comment est-ce qu'on peut être bien, puis comment est-ce qu'on l'est plus bien, plus bien. Ça veut dire qu'il y a peut-être de quoi dans notre vie qui nous prive de toutes ces bénédictions-là. Deuxième affaire qu'il faut faire, c'est qu'il faut se repentir. C'est-à-dire se détourner de notre mauvaise voie pour un retour complet à Dieu. Ce personnage-là, il était perdu, il était loin de son père, dans un pays lointain. Ça démontre comment est-ce qu'on peut s'égarer, qu'on peut s'éloigner, puis être privé de tout lorsqu'on est éloigné. Lui, il a réalisé qu'il était dans la misère, puis on voit qu'il s'est même repenti. Parce qu'il a commencé à balancer sa vie, puis il voyait que ça menait à rien, puis qu'il s'est examiné, puis là, il a dit... Je le reconnais, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre Dieu, puis j'ai péché contre mon père. Puis il était pour le dire à son père, puis il dit, je suis même plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes serviteurs. C'est ça qui était à son cœur, de la repentance, puis d'être prêt à retourner. Il regrettait, puis il était prêt à y retourner, puis il était prêt à s'humilier, puis à demander à son père, donne-moi juste « Traite-moi comme un de tes serviteurs. » C'était extraordinaire. Dans 2 Pierre 3, 9, il y a un verset qui nous parle de ça, « Que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu il use de patience envers nous, il veut pas qu'aucun de nous périsse. Dieu veut pas qu'on périsse, il veut que tous arrivent à la repentance. C'est quelque chose. Dieu, il fait tout, même étirer les promesses de pas revenir trop vite pour te laisser une chance pour que tu aies le temps de revenir à lui. C'est quelque chose, ça. Dieu, il est patient, puis il est miséricordieux, puis il est amour envers chacun de nous. Il faut confesser notre état. Ça, c'est pareil comme l'enfant prodige. Il a réalisé son état, mais il l'a confessé de sa bouche. Puis il l'a confessé en y pensant, puis il l'a confessé aussi quand il était devant son père. Puis il y a un verset qui nous parle de ça, que si tu veux être renouvelé là, dans la présence de Dieu, si tu veux vraiment demeurer dans la lumière, en communion avec Dieu, il faut que tu confesses tes péchés. Faut que tu y dises au Seigneur, telle affaire dans ma vie, c'est un péché, telle affaire, je le sais, Seigneur, que t'aimes pas ça, je te demande pardon, Seigneur, pour mes péchés. Puis c'est quand qu'on demande pardon au Seigneur que le Seigneur nous lave par son sang puis que notre robe est blanchie. C'est ce même que le Fils a pu ravoir sa robe blanche puis son anneau dans le doigt. Parce qu'il s'est repenti puis il a demandé pardon à son Père. Puis la même chose pour nous, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, puis sa parole n'est point en nous. Dieu le sait qu'on a fait des péchés. On peut pas y cacher nos péchés. Nous, on essaye de se cacher nos péchés, mais Dieu les voit toutes, nos péchés. Il sait qu'on en fait des péchés. Puis s'il t'a privé de ses bénédictions, s'il a arrêté de te donner des bénédictions parce que t'es rendu loin de lui, il sait pour quel péché qu'il fait ça, puis il s'attend à ce que tu lui demandes pardon. Il s'attend à ce qu'on lui demande pardon, puis quand on lui demande pardon, c'est là qu'il va nous pardonner, nous purifier, nous laver de nos péchés, il va laver notre robe, puis on va avoir une robe blanche, la même chose que l'enfant prodige. Il a confessé son état à son père. Il s'est humilié. Son père, il a redonné une robe blanche. Il l'a lavé, puis il a redonné un anneau en signe d'alliance. Puis après ça, je pense qu'il y a encore plus que ça pour ceux qui veulent être remplis de la présence de Dieu, être renouvelés. Paul, là, il priait à genoux. C'est ça qu'il dit même dans ce verset-là. Il priait à genoux pour les gens qui l'entourent, pour que Dieu leur donne d'être puissamment fortifiés par son esprit. Pourquoi que je dois prier pour que je sois puissamment fortifié par son esprit? Là, je dis dans le titre du message, je vais être renouvelé dans la présence du Saint-Esprit. Puis là, ça va nous dire dans le prochain passage, il faut prier à genoux pour être renouvelé dans la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi qu'il faut que je le fasse? Parce que c'est pas automatique. T'as pas la puissance du Saint-Esprit tous les jours. Faut que tu recherches à l'être en communion avec le Saint-Esprit. C'est pas quelque chose que t'as automatiquement. Moi, je me lève le matin, faut que j'y aille manger. J'ai pas automatiquement de la nourriture dans mon corps. Il faut que j'y aille manger pour avoir de la nourriture dans mon corps. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Comment faire pour être renouvelé et être rempli du Saint-Esprit? C'est simple. Faut que tu réalises que tu ne l'es pas. Faut que tu dises au Seigneur, pareil comme l'enfant prodige, faut que tu dises au Seigneur, je ne l'ai plus ça, ce contact-là avec toi, Seigneur, puis je veux être renouvelé, je veux le réobtenir, ce contact-là. Je veux être rempli. Puis là, il va te demander, confesse-moi tes péchés. Dis-moi-les, c'est quoi tes péchés. Puis là, tu vas lui dire tes péchés, puis il va te pardonner tes péchés, puis il va te purifier de tes péchés, puis il va te donner une robe blanche. Puis après ça, tu vas lui dire, comme Paul aux Éphésiens, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Il dit qu'il se met à genoux devant le Père. Puis là, au verset 16, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Fait que Paul, il a appris que quand tu veux être puissamment fortifié par l'esprit, il faut que tu apprennes à te mettre à genoux, à le demander. Paul, il se mettait à genoux, puis il le demandait à Dieu. Puis il prie à Dieu le Père que les gens puissent être puissamment fortifiés par son esprit. On veut être rempli, renouvelé dans le Saint-Esprit, il faut qu'on passe par ça, qu'on se met à genoux, puis qu'on y demande. Puis là, il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, vous allez être enracinés, fondés dans l'amour, puis là, vous allez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Puis là, vous allez être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est bon. On va être remplis de la présence divine lorsqu'on va apprendre à passer dans ce chemin-là, puis de se mettre à genoux, puis de le demander. Dans Isaïe, pour faire un dernier verset, « Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, puis ils marchent et ne se fatiguent point. » Ça, ce verset-là, c'est pour nous dire que si on apprend à dire « J'ai tout à gagner d'être dans la présence de Dieu, puis à y faire confiance. » Puis là, tu commences à y faire confiance, puis à te confier en lui, puis à t'en remettre à lui. Confesser des péchés, si t'en as fait, puis tu demandes d'être rempli du Saint-Esprit. Tu vas commencer à goûter d'être renouvelé de la force du Seigneur. Puis tu vas prendre ton envol spirituellement parlant, comme un aigle. Parce que les aigles, eux autres, quand ils prennent leur course pour voler dans les airs, ils pognent un courant de vent, puis ils remontent encore plus haut. Puis on va être comme des aigles allant toujours de plus haut, en autant qu'on apprend à se confier en l'Éternel. Puis ça nous dit qu'on va marcher, puis on se fatiguera point. Notre force vient de Dieu. On va être puissamment fortifié par le Saint-Esprit. Sachons que Dieu nous appelle, puis il veut nous renouveler, puis il veut nous donner toutes ces bénédictions-là. Il faut apprendre à demander pardon, à le confesser, puis à lui dire, puis à se mettre à genoux, puis dire, « Seigneur, viens me fortifier puissamment, puis le Seigneur va te remplir de son Saint-Esprit. » Prions. Père, Seigneur, C'est dans le nom de ton fils Jésus que je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour tout ce que tu viens de nous enseigner, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous dit que tu es prête à nous accueillir, puis tu es dans la joie quand on revient à toi. Que ça te coûte plus de joie qu'un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui n'en a pas besoin de repentance. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui t'ont abandonné. Je te demande de faire un œuvre dans leur cœur, puis de leur faire réaliser leur état, puis qu'ils puissent te le confesser, puis qu'ils puissent te demander pardon, puis qu'ils puissent te demander d'être fortifié par ton esprit pour goûter tout ce que tu as à lui donner comme bénédiction. Renouvelle tes enfants, Seigneur, dans ta présence. Je te remets tous ceux qui ont abandonné ta parole, Seigneur, je les remets entre tes mains pour que tu les ramènes dans tes voies, pour qu'ils puissent goûter ces moments glorieux qu'on peut avoir quand on est rempli du Saint-Esprit. Je te remercie de ce que tu vas faire en eux. Je te prie dans le nom de ton fils Jésus. Amen.